Merci. Donc on prolongera la discussion après la présentation de Nicolas. Donc je passe tout de suite la parole à Nicolas.
Bon, merci pour l'invitation. Je n'ai pas de titre à mon intervention, ce qui est déjà une forme d'aveu du fil directeur que je vais suivre. En gros, il est bien possible, probable, que ce soit une intervention en retrait. Voilà. Sur ce, je vais faire quelques remarques d'introduction, mais voilà, ça sera sans doute le cas, et sans doute pour des raisons fortes, une intervention en retrait. Premièrement, donc, je me sens un peu le persan, ça a été indiqué, c'est une rencontre de sociologues ethnographes, et si j'ai fait un peu d'ethnographie, je me sens très historien. Et ça correspond à quelques raisons fortes, mais en gros, ce que je vais donc présenter, c'est les perplexités de quelqu'un qui a une position de côté par rapport à la conversation. Mais c'est bien comme ça. Historien, ça renvoie, enfin... pas seulement historien, la position de côté ou la position de persan, elle est aussi liée au fait que j'ai abordé la question ouvrière par le travail, par le lieu du travail, par les lieux du travail essentiellement, alors que là il s'agit d'aborder la question ouvrière par ce territoire du privé. Et je vais faire une anecdote assez rapide. Quand je suis revenu de mon ethnographie de 3 mois dans les ateliers, j'ai un frère, reporter, journaliste, qui me dit « Alors, le week-end, qu'est-ce que tu faisais ?» Et alors là, j'ai réalisé que le week-end, j'étais encore dans les ateliers, totalement. Donc, je lui ai expliqué, j'avais des très bonnes raisons de ne pas chercher à fréquenter les ouvriers en dehors du territoire du travail, mais je le faisais en tous les cas. J'avais des raisons présentables, légitimes, mais je le faisais. C'est ça qui me semble important, à quel point donc je suis de côté par rapport à ça. Et dernier élément de présentation d'introduction, je suis impressionné par l'audace de la démarche de ce livre. Voilà, je le dis, c'est pas de la flatterie, il y a vraiment quelque chose d'audacieux de mon point de vue, en tous les cas, dans cette recherche, dans cette exploration des territoires du privé. Et ça a un rapport avec ma position d'historien. Je vais donc développer deux éléments d'abord. Premièrement, comment moi, historien, je vois la place de cette enquête dans l'intérêt des sociologues pour le monde ouvrier. Donc, ce sera une revue assez rapide, peut-être un peu scolaire, mais enfin, c'est ça qu'il me semble intéressant. Et deuxièmement, faire un parallèle avec l'évolution des intérêts historiens sur les questions ouvrières. Donc, je n'irai pas jusqu'à des conclusions très fortes et très lourdes, mais ça posera un peu quelques repères et puis quelques remarques très rapides là-dessus et sur ce travail. Donc, premièrement, la vie privée comme renouvellement de l'enquête ouvrière, l'enquête sociologique, donc, et qui me semble traduire un tournant ethnographique dans l'intérêt des sociologues pour le monde ouvrier. En gros, j'ai quelque chose de très séquencé, trois périodes, avec une première époque qui est la période du début du XXe siècle, 1900-1950, avec l'enquête sur les niveaux de vie essentiellement, qui est une tradition sociologique ancienne. Je saute par-dessus Durkheim parce que je n'ai pas travaillé la chose, la relation de Durkheim au monde ouvrier. Donc je passe directement à Alvax, gros enquêteur sur les budgets. Enquête qui a été ou qui est en cours de réexamen par Christian Topalov et Anne Luissier. Et ça démarre avec une commande britannique et ça se construit avec un réseau de correspondants soit universitaires, soit militants, qui procèdent à une cinquantaine d'études approfondies de budget ouvrier, dont 8 par Alvax lui-même. Et cette enquête est publiée, enfin elle est réalisée en 1907, publiée en 1912. Et la question, c'est donc essentiellement sur les... C'est bien une enquête sur les familles, mais c'est une enquête sur les budgets. Hein, c'est le cœur du sensible, enfin du problème, c'est l'administration du budget ouvrier, beaucoup plus que ce qui a été central dans la conversation précédente. Et puis Alvax se lance dans une deuxième enquête dans les années 30, mais là la commande est différente, il est en connexion avec le BIT. Donc il y a, je ne suis pas sûr qu'il y ait une commande précise là-dessus, à la clé, mais en tous les cas, il y a une dimension plus ample qui est donnée dans la comparaison entre budget ouvrier en France et budget ouvrier dans d'autres pays. Après, ce fil enquêteur évolue après la Seconde Guerre mondiale par des enquêtes sur l'alimentation. Donc ça se réduit comme territoire problématique. Avec, voilà. Et les autres aspects sont plutôt implicites sur la condition ouvrière, sur les qualifications. Et puis il y a Jean Bardelot qui reprend un peu qui relance un petit peu cette veine avec les familles ouvrières dans les années 50, se détachant un peu de la consommation, ou s'en écartant un peu, qui engage donc une grosse enquête sur 400 familles, qui m'impressionne, donc c'est un gros travail d'équipe, et qui intègre là les rythmes de travail, le logement, l'alimentation, les habitudes, les aspirations, les motivations, ce qui semblait poser problème et être particulièrement novateur à l'époque. Voilà. Deuxième courant, qui démarre à la fin des années, enfin dans le courant des années 30 et qui, pour moi, s'épuise dans les années 80, qui est une enquête sur le travail. Enfin, une tradition, une dynamique d'enquête sur les ouvriers par le travail, par l'intérieur du travail. Avec Friedman d'abord, avec ensuite Touraine, Naville. Et là, on est vraiment dans le travail beaucoup. Des questions sur les rapports entre travail, machinisme, industrie et cette dynamique-là se diversifie un peu après avec des questions sur les relations industrielles, les relations donc patronales, syndicats, Renault et puis la régulation des organisations. C'est toujours ancré sur le travail et ça se diversifie, mais l'essentiel se joue quand même sur la vie au travail, la vie des travailleurs dans cet espace-là, avec une sophistication des questionnements, avec des controverses empilées. Le Fordisme est un exemple typique de cela. Ça correspond aussi, et je pense que c'est intéressant, ça correspond à des commandes qui sont pour partie des commandes publiques, parapublic, quelquefois privé sur le tard. Troisième temps, un temps que j'appelle d'ethnographie des modes de vie, où il y a là, il me semble, de façon assez nette, l'idée de ou la volonté de retrouver un milieu, retrouver un monde. Donc c'est là le titre, le terme dans le titre du livre n'est pas du tout anodin. Étudier son mode de vie, étudier les agencements identitaires, les rapports à la société, et pas simplement dans les endroits confinés, qui sont les endroits de travail. Avec, deuxième particularité, une option ethnographique lourde, une présence durable, un compagnonnage, une observation, une écoute, l'idée d'être avec, qui est très très forte. Ce qui me semble aussi, c'est que ça correspond à un moment de retour d'épopée ouvrière, ou de vision épique du monde ouvrier et volonté de relation de plein pied entre enquêteurs et interlocuteurs. Avec trois enquêtes, il me semble, pour moi, Florence Weber, Michel Pialou et Stéphane Beau. Michel Pialou puis Stéphane Beau. Stéphane m'excusera de garder les deux articulations qui me semblent intéressantes. Et Olivier Schwartz. Voilà, donc dans les trois cas, on a ce que j'ai dit du point de vue de ce qu'il y a de commun Et puis après, des variantes sur lesquelles je ne vais pas m'attarder beaucoup, mais comme chaque fois qu'on a des enquêtes lourdes, il y a assez progressivement des identités extrêmement fortes qui se constituent dans peut-être l'enquête et encore plus sans doute les modalités de production d'écrits sur cette base-là. Donc Florence Weber qui cherche les réseaux de sociabilité en bonne partie hors de l'usine, en bonne partie hors de la famille, il me semble. Donc c'est les territoires d'inter-sociabilité dans ces espaces un peu ouverts, intermédiaires. Michel Pialou qui établit une relation d'exception avec un ouvrier, demande ouvrière, réponse sociologique, et à partir de là, qui constitue un ancrage, d'où ce travail d'équipe extrêmement fort, mais toujours ancré, on l'a vu il y a quelques semaines, toujours ancré très fortement sur cette relation exceptionnelle de départ. Et voilà, le livre dont il est question, dont je ne dis rien, je passe tout de suite au survol, au survol des trajectoires historiennes. Sur les... Donc les trajectoires historiennes, ce qui me semble un peu intéressant, c'est de connecter les temps de production pour voir à quel point il y a quand même des spécificités dans ces parcours disciplinaires de curiosité vis-à-vis du monde ouvrier. Jusqu'aux années 50, la curiosité est quand même très limitée du côté des historiens. Il y a un peu d'histoire que j'appellerais d'histoire quasi immédiate. Par exemple, assez vite, des historiens se penchent sur 36. Sur ce grand mouvement de grève. Il y a surtout des histoires générales du travail avec la vision de chercher comment se structure l'articulation entre progrès économique, progrès technique et l'idée de construire des époques liées à des modes de production qui se succèdent. Et délégation partielle à des sociologues sur l'intérêt pour le monde ouvrier. Donc très tôt, des sociologues font un peu sous-traitant pour une écriture d'un passé proche sur le monde ouvrier à l'intention des historiens. Ça se voit très bien quand on regarde les tables des matières des annales. Je trouve que c'est intéressant, cette position bienveillante, ouverte, mais un peu condescendante des historiens de cette époque. Deuxième temps, les années 50, avec un vrai, ce que j'appelle un décollage de l'histoire ouvrière, avec quelques grandes thèses parce que ce sont des thèses d'État, qui s'appuient sur une quinzaine d'années de travail, une envergure monumentale qu'on ne connaît plus beaucoup aujourd'hui. Et aussi dans cette dimension, quelque chose qui est très important, c'est une différence très forte entre les questionnements initiaux et les réflexions terminales. Pardon. C'est-à-dire qu'on a des structures de thèse qui sont souvent des structures des questions de départ et toute une série d'incises, de digressions, de réflexions qui sont des résultats de l'évolution de la pensée des auteurs au cours de ces 10-15 années. Donc je pense que c'est... Et c'est ce qui fait souvent la capacité de ces thèses à résister au temps, le fait que c'est par les digressions, par les positions latérales, discrètes mais incessantes, que ces thèses restent riches. Il y a la première thèse qui est celle de Roland Trempé. Donc Roland Trempé d'origine ouvrière, résistante, communiste, qui a un parcours tout universitaire tout à fait atypique, et qui étudie les mineurs de Carmaux. Elle commence dans les années 50. Elle veut faire une histoire globale d'un groupe socio-professionnel, donc d'autres mineurs. Elle part de l'entreprise, elle en construit le mécanisme capitaliste d'exploitation, puis le travail, l'organisation du travail, l'acculturation à la mine de gens qui viennent de milieux paysans, l'acculturation forcée, les modalités de l'imposition de ces contraintes-là, et puis mouvement revendicatif, construction de syndicalisme et de mouvement socialiste. Cette structure-là est particulièrement peu poreuse à la, au partage, à la connaissance de près de, des réalités ouvrières. Et si cette thèse résiste quand même autant, c'est parce qu'il y a derrière cela une présence de type ethnographique de la part de Roland Trempé, qui par ses origines sociales est très très proche de ces mondes mineurs, et qui par ailleurs passe tous ses week-ends pendant de longues années à aller fréquenter des ouvriers qui sont des ouvriers de son temps et non pas ceux qu'elle étudie. Mais je veux dire qu'il y a ce biais-là qui fait une sensibilité aux situations qu'elle lit dans les archives et qu'elle décode, et quelquefois des aptitudes à poser des questions qui sont de sources proprement ethnographiques. Deuxième thèse, celle de Michel Perrault, qui est brièvement communiste, elle aussi, et qui l'est au début de sa thèse. Puis après, elle est compagnon de route, plus ou moins distante, et qui finit par être franchement distante du communisme. Mais le point de départ est cela, et le point de départ, elle le dit souvent, et aussi le fait que Ernest Labrousse, qui est son grand professeur, son maître, la rabroue quand elle esquisse l'intention de travailler sur les femmes. Et qui l'envoie vers l'étude du monde ouvrier, à un moment qui est un moment proposé par ce maître. On est dans une époque des annales où il y a des maîtres qui programment la recherche en histoire en découpant le passé à explorer en tranches. Et il se fait donc confier la tranche de la formation du mouvement ouvrier à travers les grèves des années 1870-1890. Donc elle étudie cela de façon très lourde, avec uniquement des archives, bien sûr, avec du quantitatif très conséquent, et à partir de ce quantitatif qu'elle fait de façon très très fine, toute une série de questions qu'on qualifie souvent de questions plutôt anthropologiques sur ces sociétés ouvrières, à partir de ce qui apparaît dans les luttes, les grèves, les conflits, les manifestations, les violences. Et puis elle quitte ce monde pour se consacrer à l'histoire des femmes. Troisième thèse qu'on cite moins souvent, celle d'Yves Lequin, et qui est pourtant le troisième pilier fondateur de cette histoire ouvrière, qui porte sur le monde ouvrier dans la région lyonnaise pour une période un peu plus large que Michel Perrault, 1848-1914. Il suit lui aussi la dynamique de constitution de la classe ouvrière, avec des aspects économiques, industriels. Il suit beaucoup, et c'est original à l'époque, les mobilités, avec quelque chose de très fin sur les différentes modalités de mobilité, de la campagne notamment vers l'usine urbaine. Et puis de l'histoire sociale, plus que de l'histoire du travail, attention aux dynamiques identitaires, aux interactions. Il est comparé, et je pense que ça mérite d'être dit, il est comparé par Michel Perrault, explicitement, il est mentionné, évoqué, cité comme notre Thomson français. Et donc l'hommage n'est pas tout à fait anodin, parce que Michel Perrault, qui est une personne très civile, très bienveillante, dit quelque chose d'un peu plus que de la bienveillance, il me semble. Lequin n'a pas de perspective communiste, et il a un questionnement qui, sur le plan théologique, est intéressant. Il part de ce qui se passe en 14, c'est-à-dire il part du fait que les ouvriers en 14 entrent en guerre, acceptent la guerre, font la guerre, bien qu'ils soient très souvent pacifistes. Donc il part d'autre chose que d'une logique in fine de lutte de classe, comme étaient les points de départ des deux historiennes précédentes. Et il intègre donc quelque chose de beaucoup plus complexe dans le questionnement initial de sa recherche. Voilà, tous ces gens-là sont en réseau avec d'autres historiens qui sont sur le mouvement ouvrier, beaucoup plus. Il y a, je l'ai dit, plus que dans les structures des thèses, dans les incises, dans les réflexions, dans les analyses déployées de façon dans le détail, il y a toute une série de pistes que reprennent de façon variée des historiens de la historienne et historiens de la génération précédente. Donc il y a Noiriel qui part du militantisme sidérurgique vers l'immigration, en passant quand même par un premier survol sur l'histoire des ouvriers. Hein, c'est le premier grand travail, le premier grand livre qui prend le risque de faire une histoire de longue durée sur les ouvriers, non pas sur le travail, avec donc cette complexité d'identité au cœur de la question. À peu près, presque au même moment, Alain de Werth, qui étudie vraiment la période presque antérieure, hein, c'est-à-dire les manufactures du 18e, le monde industriel surtout, et qui lui aussi fait une synthèse dans un manuel universitaire, mais une synthèse de très grande qualité sur la diversité des mondes ouvriers dans la première moitié du 19e. Et même, d'une certaine façon, dans l'ensemble du 19e, on a là quelque chose de très riche, très novateur, sur des ancrages de diversité dans la constitution du monde ouvrier, qui était en général, comment me présenter jusque-là, comme un peu monolithique, la misère ouvrière. Et puis alors, j'évoque, mais très très vite, des gens qui sont à peu près mes contemporains, donc à peu près tes contemporains aussi. Voilà. Yves Cohen, Sylvie Schweitzer, qui se fixe sur l'organisation industrielle, en tous les cas au départ. Catherine Omnes, qui part de la sidérurgie pour aller vers les ouvrières, et puis vers la santé des travailleurs. Michel Zancarini, qui part des ouvrières et qui travaille le genre et les interconnexions entre ouvriers, monde ouvrier et monde féminin, et les relations de genre dans ces milieux ouvriers. Michel Pigenet sur les communautés ouvrières et beaucoup sur le syndicalisme. Quand on regarde dans le détail, ces historiens circulent plus ou moins. Rares sont ceux qui restent de façon ancrée. Michel Pigenet est peut-être le seul qui reste ancré de façon très continue sur communauté, après avoir fait les communautés de territoire, dans un territoire rural, s'installe sur ouvrier syndicalisme. Voilà, et puis il y a, je le signale, une génération d'après la nôtre. Hein, c'est-à-dire que cette histoire ouvrière est dynamique, avec des gens qui ont entre 30 et 40 et quelques années, quoi. Très dynamique, très variée et très inventive, je trouve. De cela, je tire qu'il y a une discordance forte dans les parcours de curiosité. Il y a de la curiosité pour le monde ouvrier dans la discipline sociologique, il y a de la curiosité pour le monde ouvrier dans la discipline historienne, mais on voit bien qu'il y a des différences de parcours, que les choses ne sont pas synchrones, ou quand elles sont synchrones, elles se traduisent par des ancrages différents. Je pense qu'il y a quelque chose de synchrone dans le fait que des historiens dans les années 80 diversifient de façon assez forte des ouvertures de problématiques, avec le fait que chez les sociologues, on commence à ne plus supporter ce que j'ai dit tout à l'heure sur autonomie et contrainte dans les organisations, taylorisme, post-taylorisme, fordisme, post-fordisme, des problématiques qui s'asphyxiaient, je pense, et qui en plus glissaient de plus en plus vers des commandes de conseil à des responsables d'entreprise. Donc les pas de côté ethnographiques sont aussi des ressourcements extrêmement forts sur ce que doivent être les curiosités de recherche. Mais on voit bien que ça se traduit de façon très très différente entre historiens et sociologues. Quelques remarques rapides de moi, donc, me réfugiant dans ma position historienne. J'ai dit, le livre, je le trouve particulièrement audacieux parce que je trouve très audacieux le fait de se centrer sur l'espace caractérisé comme privé. Bien sûr, on peut dire que pour des historiens, c'est un espace inaccessible. Mais ce sur quoi je voulais un peu pointer quelque chose, c'est le fait que ce n'est pas seulement inaccessible de fait, parce que les historiens sont limités par leurs archives, mais c'est aussi qu'il y a des positions, qu'il y a peut-être des choix ou des conforts de recherche pour les historiens à avoir mis énormément de temps à se lancer vers le privé. Et donc, là, encore une fois, ce terme d'audace, je pense que c'est un terme que je maintiens. Ce n'est pas de la politesse, c'est pas de... Il faut, en gros, pour le faire, pas simplement y aller, mais il faut aussi savoir maîtriser ce que j'appelle une présence observante. Et c'est très bien dit dans l'introduction. Au début, on se dit, bon, Olivier Schwartz, là, on rajoute un peu dans le risque qu'il prend, la brutalité qu'il effectue. Et dans le fond, quand on lit le livre, on est bien convaincu qu'il y a du risque fort et qu'il y a, en tous les cas, de la transgression extrêmement forte. Et que ça n'est pas gratuit. Même avant d'arriver à la dernière partie, on voit qu'il y a quelque chose de très vif qui se joue. Cette audace-là, elle se joue aussi elle peut s'effectuer parce que il y a l'appui sur des catégories robustes, extrêmement solides, qui permettent d'explorer l'intimité des personnes. Et non pas simplement de l'explorer, mais aussi d'en tirer quelque chose, c'est-à-dire d'en tirer quelque chose dans le registre analytique. Identifier des rôles, c'est déjà se détacher des personnes en situation. Reconstituer des scènes sociales, c'est aussi faire un travail intellectuel fort. Et là aussi, ça mérite de l'audace de se lancer vers cela. Faire jouer les mises à l'épreuve, les comparaisons. Deuxième élément, l'épaisseur du présent. Et là, peut-être qu'on est pas simplement dans l'étonnement, mais aussi dans l'interrogation. C'est une recherche qui est très très centrée sur, pour prendre la formule historienne, l'espace d'expérience et l'horizon d'attente, hein, cette bulle artificiellement constituée en présent, dans laquelle on voit cette force de l'habitus, le sillage minier, dans la vie de ce groupe ouvrier qui est en train de sortir de la mine, qui en est sorti, qui en sort, qui finit d'en sortir, avec l'ascétisme de vie, l'engagement du corps, des clivages qui sont particulièrement marqués, dont on a beaucoup parlé de genre, et la force des rôles de genre dans les couples. Mais ce présent, je me demande s'il n'est pas un peu asymétrique, c'est-à-dire avec quand même une force de la présence du passé et peut-être une légèreté de la présence de l'avenir dans ce présent-là. Donc la formule de Kozelek, espace d'expérience, horizon d'attente, on voit beaucoup... l'espace d'expérience, on le voit, enfin, en tous les cas, l'horizon d'attente est moins net, et il est possible qu'il s'il est moins net, c'est parce que il est moins net pour les gens qui le vivent. Troisième remarque qui prolonge d'une certaine façon, j'appelle ça l'esprit de la micro-histoire, mais en gros quand même, il y a un pari qui consiste à poser la loupe sur un endroit très très étroitement délimité et d'en tirer des remarques de portée générale. Vers quoi, en gros, de quoi est constitué ce moment-là ? C'est une question que je pose, que je me pose, que je te pose, en gros, d'une certaine façon. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer d'un groupe mineur minier mineur vers des couches populaires. Et là, donc, il y a des questions sur, pas un délitement d'identité, mais enfin quelque chose qui est en train de s'expanser et de perdre de sa fermeté de structure interne. Des vertus qui peut-être perdent leur objet, le sens de l'honneur. Je ne sais pas si c'est une donnée permanente. En tous les cas, dans ces formes-là, dans les formes que tu dis, je ne sais pas si cette vertu-là ou l'ascétisme maternel dont on a parlé, je ne suis pas sûr non plus que ce ne soit pas un moment précis dont tu rends compte. Je pense qu'il y a, je me demande s'il n'y a pas du temporel très fortement social dans cette complexité que tu décris avec énormément de finesse. Aussi peut-être quand même une fragilisation de la prépondérance maternelle. Malaise masculin, je ne suis pas sûr que les choses n'aient pas plus de consistance dans la durée. En gros, quel est le moment dans l'histoire de la famille dont il est question là ? Les familles semblent se tenir quand même fortement. Je ne sais pas si 20 ans plus tard, elles se tiendraient de la même façon. Alors, bien sûr, elles se tiennent avec une violence, une oppression, une inégalité, une domination très forte, mais elles se tiennent. Et je ne sais pas si ce temps-là dont tu rends compte n'est pas un temps qui se défait en bonne partie. Donc, quelle est la part de l'instabilité ou de la déstabilisation ce temps-là? Et j'en profite parce que pour revenir à du temps très très long, peut-être que c'est la fin d'un temps de famille ouvrière, parce qu'avant le temps de la stabilité, avant le temps du matriarcat dans les familles ouvrières, il y a peut-être eu un temps où une bonne partie du monde ouvrier, celui du début du 19e, était sans famille. Hein. Je rappelle ce titre sans famille fortement centrée sur les mères. Là aussi, il faut être très très prudent, d'abord parce que ce n'est pas sûr, deuxièmement parce que, je l'ai dit, des historiens ont montré que ces mondes ouvriers du début du 19e étaient très divers. Mais en gros, est-ce que ce temps dont tu rends compte est un temps, un moment, un dernier moment de force de la famille dominée?
Merci.
Merci beaucoup, beaucoup à toi, Nicolas. Je suis extrêmement sensible à toutes sortes de choses que tu as dites, surtout venant de toi. À la dernière question que tu as posée, je crois que pour l'instant, je vais demander l'autorisation de sauter mon tour parce que je ne saurais pas comment répondre. Mais je vais m'expliquer sur la difficulté pour moi de répondre. Peut-être dans la. Enfin bon, c'est pas que je sois complètement sans sentiment là-dessus, mais ce serait trop, pour l'instant, trop vague. Mais si les choses se précisent dans mon esprit au cours de la journée, j'y reviendrai. Mais je vais dire peut-être tout simplement, ce qui fait que je suis en difficulté pour te répondre, c'est qu'en fait, la question plus large que tu as soulevée, c'est-à-dire pas seulement celle de ce qui a suivi, mais la question finalement, à quel moment de l'histoire de la classe ouvrière, de quel moment de l'histoire de la classe ouvrière est-il question dans ce livre, mettons? Et à quel moment de l'histoire de la classe ouvrière avais-je affaire à ce moment-là? Cette question, je me la suis très très peu posée, en fait, très très peu. Et parce que j'avais, parce qu'en fait, je crois que j'avais très très peu de sensibilité historique. S'il y a alors là, je dirais pas un regret, parce que ce qu'on fait comporte toujours des manques. Bon, mais en tout cas, le sentiment que quelque chose a manqué dans mon travail et au livre, c'est l'absence d'interrogation historique. Et de ce point de vue, je vais ouvrir tout grand le parapluie pour dire que Florence Weber, qui sera là tout à l'heure, qui m'a fait l'amitié d'accepter de venir à l'un des débats tout à l'heure, je crois dans le livre que vous avez co-dirigé, toi-même et Cédric, sur Observer le travail, il me semble, mais j'ai pas relu son texte en prévision d'aujourd'hui, qu'elle dit au fond que c'est après coup qu'elle a réfléchi sur le moment de l'histoire ouvrière auquel elle avait affaire quand elle travaillait sur Dombron, Son livre est paru quasiment en même temps que le mien, en 89. Hein. Mais au fond, elle dit qu'elle s'est très, très peu posé la question. Disons que voilà, je suis en train de dire, je ne suis pas tout seul. Bon. Mais en tout cas, moi, je sais que ça, alors là, j'ai complètement manqué de cette dimension-là. Je veux dire, avant même que tu poses la question finale, je me disais en t'écoutant qu'il y a évidemment une histoire de la classe ouvrière et il y a une histoire de la sociologie et de l'histoire du monde ouvrier que tu as au fond reconstituée là, dans laquelle, même si tu l'as fait brièvement, j'ai déjà appris beaucoup de choses. Pas forcément tous les auteurs que tu as cités, ça, j'en connaissais la plupart, mais la manière dont tu les as mis en série, si tu veux. Il y a beaucoup d'auteurs que je connaissais, que j'avais lus, mais tu as procédé à une mise en série que je n'avais jamais faite avant de t'entendre. Et au fond, voilà, je me suis lancé dans cette affaire en passant directement de la philosophie, puisque j'étais philosophe de formation et prof de philo en lycée à l'époque, dans l'expérience du travail ethnographique, mais au fond, sans aucun passage par l'histoire. À aucun moment, je ne me suis vraiment interrogé sur l'histoire ouvrière qui était à l'arrière-plan du monde ouvrier que j'avais sous les yeux, et à aucun moment, je n'ai essayé de procéder vraiment à une revue un peu systématique des travaux historiens et sociologiques qui avaient été faits sur cette question. Alors, j'ai lu des choses. Je veux dire, par là, je ne veux pas dire que je n'ai pas lu. J'ai lu des choses, mais sans systématicité. Voilà. Et ça, c'est à l'évidence un manque. Alors, en particulier, c'est un manque aussi bien pour ce qui concerne ce qui a suivi que ce qui a précédé. C'est que je savais bien sûr que je travaillais sur le monde des mineurs, mais j'avais le sentiment qu'à travers le monde des mineurs, je travaillais sur toute la classe. Et là, de ce point de vue, je restais ouvriériste. Je savais que je travaillais sur une région minière, c'était impossible de ne pas le savoir. En plus, j'étais prof de philo dans un établissement où la plus grande partie des élèves étaient dans les corons miniers. Donc, c'était complètement présent pour moi. Mais intellectuellement, je demeurais tellement porteur d'une croyance dans l'existence de la classe ouvrière que j'avais le sentiment, à travers ce travail sur le monde minier, de travailler sur la classe ouvrière. Et à aucun moment, je ne me suis dit que c'était peut-être une certaine fraction de la classe ouvrière sur laquelle je travaillais, qui a une histoire et quand même des caractéristiques très particulières. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis très interpellé par la question que tu poses. Mais là, je crois que c'est vraiment une dimension qui a été absente de mon travail et qui est absolument capitale. C'est combinaison ethnographie-histoire, disons. Voilà. Pour le sentiment que j'ai de ce qui a pu se passer ensuite, voilà, je ne suis pas complètement sans intuition, mais éventuellement j'y reviendrai, parce que je ne serai pas clair là, pour l'instant. Merci à toi, Nicolas. Merci beaucoup.
Merci. On a pris un peu de retard à l'allumage. C'est un fait de notre faute. Donc on a assez peu de temps pour la discussion, mais on a quand même le temps de prendre quelques questions. Peut-être, si on n'a pas complètement le temps d'y répondre, qu'elles soient adressées aux deux intervenants ou à Olivier. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la journée.
Bonjour. Merci beaucoup pour vos exposés et la discussion. Moi, j'ai plutôt une question pour reprendre l'expression que je trouve très juste de Nicolas Hatzfeld sur ce livre audacieux. Et c'est longtemps que je ne l'ai pas relu, mais quand je l'avais lu, je me suis dit qu'il fallait quand même effectivement beaucoup d'audace. Et je me demande si aujourd'hui un livre comme ça pourrait paraître. Et ça me fait penser à, effectivement, au contexte, finalement, quand tu as écrit ce livre, le monde privé. Désengagé politiquement, et c'est plutôt cette question-là qui m'intéresse, parce que tu l'évoques mais un peu de manière un peu allusive au début. C'est finalement le fait de travailler sur le monde privé des ouvriers dans un moment où la classe ouvrière existe encore, dans les années 80, il y a l'expérience de la gauche. Bon, si tu peux en parler un peu plus biographiquement, en quoi finalement ce que tu vis à l'époque, à la fois comme prof de philo et aussi comme peut-être militant ou encore militant, et puis l'arrivée de la gauche au pouvoir et les expériences assez vite, la désillusion, en quoi ça a joué sur l'écriture de ce livre et sur le fait aussi d'aller si loin dans quoi, une question qu'on ne peut pas se poser, c'est voilà, tu vas très loin dans la description des contradictions de ces familles. Et, voilà, comment tu l'as, comment dans ton histoire à toi, ce livre a pu germer. Voilà. C'est une thèse, je sais, mais bon. Excuse-moi d'être aussi précis.
Tu peux peut-être déjà répondre, à moins qu'il y ait d'autres questions. Parce que celle-là peut déjà nous occuper un petit moment.
Oui, alors voilà, merci beaucoup à toi Stéphane pour plein de choses, d'être là d'abord, parce que voilà, je suis infiniment sensible au fait que tu sois là. Bon, c'est pas du renvoi d'ascenseur vraiment, mais la condition ouvrière, le retour sur la condition ouvrière est pour moi un livre absolument majeur, dont j'ai l'impression que, effectivement, on appartient à. Globalement à une même génération, mais le dire en même temps risquerait de vieillir toi un peu quand même, donc je ne veux pas. Et si j'ai le temps, je dirais, quoi qu'effectivement on appartienne dans la périodisation de Nicolas, c'est la même période, ça tout à fait, je suis absolument d'accord. J'ai l'impression qu'il y a néanmoins, si je peux, j'y viendrai ensuite, quand même, il s'est passé quelque chose entre 89-90, Florence et moi, et 99, je pense, qui explique que. C'est la même période, mais avec un centrage différent dans votre livre. Alors, je ne sais pas comment faire, et les idées la bouillonnent dans ma tête. Comment ne pas être long sur la question aussi large et puis interpellante et puis que tu me poses. Donc, quand j'ai entrepris ce travail, c'était en 79-80. J'étais encore membre du PCF, dont j'étais membre depuis 10 ans. J'étais entré en 68, voilà, depuis 12 ans. Voilà. J'étais entré en 68. Et donc, j'étais en fait sur le départ. J'avais accumulé tellement de désaccords que j'étais en train de partir. Mais effectivement, les croyances étaient toujours là. Et je crois que c'est cette combinaison d'une prise de distance par rapport au... De ce point de vue, je me suis beaucoup reconnu dans des choses qu'a écrites Bernard Pudal, si tu veux. C'est cette prise de distance par rapport au type de discours que tenait le parti auquel j'avais adhéré sur la classe ouvrière. Donc c'est la combinaison de cette prise de distance par rapport à un discours que je percevais comme très dogmatique, très sectaire, très fermé, très clos. Bon. Combinaison de cette prise de distance et en même temps de cette croyance, avec tout ce qu'il y a dans le mot croyance, c'est-à-dire des illusions, de la méconnaissance, mais aussi des désirs, des aspirations, des rêves. Bon. C'est la combinaison de cette prise de distance et de cette croyance maintenue qui, pour moi, en tout cas, a précipité l'entrée dans l'enquête. Plus, mais ça, je ne vais pas m'y arrêter, je pourrais en parler, mais parce que c'est pas que ce soit privé, mais ça a moins d'intérêt pour vous tous ici. J'avais une formation de philosophe, j'avais fait des études de philosophie, j'étais prof de philo, ce que je suis resté jusqu'en 90, mais quoique j'aimais beaucoup enseigner cette discipline, j'avais clairement le sentiment qu'intellectuellement, ça n'est en fait plus ça que je faisais depuis longtemps, et que je m'étais intéressé à d'autres choses, en fait. Mais je crois que c'est la combinaison de cette prise d'écart et de cette croyance qui fait que je me suis lancé là-dedans. Prise d'écart au sens, préservation de la croyance au sens où c'est tout autant que 12 ans plus tôt, c'est aux ouvriers que je m'intéressais. Il n'y avait aucun doute là-dessus. J'avais envie d'en savoir davantage. Et en même temps, prise de distance au sens où j'avais justement envie d'en savoir davantage alors que j'avais le sentiment que le discours qui était tenu au sein du PC masquait trop de choses et rendait inintelligible trop de choses. Voilà. Donc je pense que c'est les deux. Et je dirais que c'est le maintien de cette croyance m'a égaré sur certains plans, notamment, enfin, m'a égaré, c'est moi qui me suis trompé, enfin, c'est, voilà, au sens où le maintien de cette croyance, le maintien d'une forte dose d'ouvriérisme, m'a empêché de voir cette interrogation historienne sur à quel type de classe ouvrière j'avais affaire, qui n'était à l'évidence pas la même que celle de bien d'autres groupes ouvriers. Donc cette croyance, de ce point de vue, a produit des effets d'égarement, mais elle a été quand même aussi un moteur très très fort. Elle m'a permis, je pense, ou elle m'a incité en tout cas à être attentif à toutes sortes d'aspects du monde auquel j'avais affaire, et notamment alors que c'était un monde quand même extraordinairement dominé, quand même, ce monde des ouvriers issus des mines. La croyance ouvriériste m'a aidé à éviter une certaine forme de misérabilisme, c'est-à-dire que je voulais croire que le monde ouvrier était encore debout, et du coup j'ai cherché quand même en quoi il était encore debout. Et donc ça m'a aidé, je pense, à éviter une représentation exclusivement en termes de manque et de dépossession. Voilà. Mais j'aurais bien d'autres choses, évidemment, à dire sur ta question, qui est évidemment très, 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 très belle. Si je peux juste ajouter quelque chose, mais tu m'arrêtes, Cédric. Oui, voilà, oui. C'est juste, peut-être juste, le sentiment que j'ai... moi, effectivement, comment dirais-je, dans le cadre de la périodisation que tu proposes, Nicolas, et dans la, enfin, qui m'a tout simplement complètement éclairé, le rapprochement que tu as fait entre nos trois enquêtes, c'est-à-dire celle de Florence, la mienne, je suis l'ordre chronologique, et puis celle de Stéphane et Michel. Moi, j'y suis absolument sensible, et puis tout simplement, je m'y reconnais complètement parce que on a travaillé de la même manière. Enfin bon. Alors, j'ai le sentiment simplement que il y a entre Florence et moi, alors même qu'on n'a pas forcément toujours été d'accord sur tout. Peut-être Florence y revient ce soir, mais entre Florence et moi, outre une parenté alors très 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 forte de méthode de travail, bon, on est des ethnographes tous les deux, il y a, je pense, une parenté très forte d'objet qui est vraiment très fin des années 80. C'est-à-dire, j'en ai jamais parlé avec elle, mais en tout cas pour moi, mais je pense que ça devait être le cas pour elle aussi. Moi, parce qu'après tout ce que j'ai dit, la question est pourquoi s'être interrogé, pourquoi s'être intéressé plus particulièrement à la famille, au privé, voilà, quitte à s'intéresser à la classe ouvrière, pourquoi centrer là-dessus? Bon. Alors, j'avais sûrement, je pense en connaître une petite partie des raisons plus... plus propre, plus personnel. Bon. Mais il me semble qu'il y avait aussi le sentiment que, au début des années 80, puisque je commence donc en tout début 80, on est quand même encore en France dans une période de l'histoire du monde intellectuel où il y a quand même une très forte présence parmi les intellectuels, il y a une très forte visibilité du mouvement ouvrier, lequel n'est peut-être pas du tout correctement connu. Hein. Il est très possible, peut-être que Nicolas dirait que ce mouvement ouvrier... Il n'est que très superficiellement connu. Mais là, il y a une très forte visibilité de ce mouvement ouvrier chez les intellectuels. Donc, il y a une très forte visibilité de la classe ouvrière en tant que sujet politique, en tant que sujet au travail, en tant que classe ouvrière d'usine. Et j'ai le sentiment à ce moment-là très fort que, par contre, on en sait beaucoup trop peu sur d'autres aspects de la vie ouvrière, c'est-à-dire les aspects plus proches de la famille, du hors-travail, du hors-politique. Et que là-dessus, on ne sait pas ce qui se passe, ou on sait trop peu ce qui se passe. Et moi, ce qui m'a conduit à m'intéresser, ce qui m'a conduit à me tourner vers ces aspects-là de la vie ouvrière, c'est pour une part, c'est ce sentiment-là. Et la question pourra éventuellement être posée à Florence tout à l'heure, mais je ne serais pas surpris que c'est joué aussi un rôle pour Florence, le désir d'aller vers des aspects du monde ouvrier... qui soit un peu, qui soit à distance de cette classe ouvrière d'usine, de cette classe ouvrière militante, de cette classe ouvrière du mouvement ouvrier, qui, encore une fois, était peut-être très, très mal connue scientifiquement, mais qui était encore omniprésente dans le monde intellectuel. Alors que j'ai l'impression que, mais là, Stéphane étant là, il pourrait le dire, le sentiment que j'ai, c'est que donc, le livre de Stéphane et Michel, c'est quasiment 10 ans plus tard, c'est 99. Il me semble que ce qui est moteur pour Stéphane et Michel, c'est le sentiment que, depuis une dizaine d'années, on a cessé de parler du travail. Donc là, il s'est passé quelque chose et qu'il faut remettre la question du travail et de l'usine au centre de la sociologie, d'abord tout court, et des classes dominées. Donc, alors que moi, 10 ans plus tôt, j'avais le sentiment inverse, qu'on savait beaucoup de choses, qu'en tout cas, on parlait beaucoup du mouvement ouvrier, mais qu'on savait très très peu de choses sur ce qu'il en était des familles ouvrières et des aspirations des familles ouvrières, et en particulier de toute une aspiration au bien-être, à l'ascension sociale. Enfin bon, ce qui a été moteur pour moi, c'est quand même les invraisemblables déclarations de Marché de la fin des années 70. Moi, j'ai toujours eu du respect pour Marché, hein, bon, mais ce discours invraisemblable de la fin des années 70 sur le retour de la paupérisation, la chose. Voilà. Donc je pense que de ce point de vue, on est fondamentalement de la même période, mais malgré tout, avec une différence de contexte, je pense.
Merci. Je suis désolé, c'est absolument frustrant parce que j'aurais voulu poser des questions à Nicolas et Dominique en regard de leurs propres travaux, mais là j'ai bien peur que ce ne soit pas raisonnable de reporter la pause.